Alors, l'autre amant est un monstre. Les chants du mal de mort occupent en littérature une place tout à fait particulière. Du moins, il n'y a pas de place en littérature. C'est un éclatement. On voit mal d'ailleurs comment il passe de Don Quichotte prosateur, immense prosateur, reflet de toute une Espagne, et immense philosophe qui apporte sur la vie, sur l'humanité, un éclairage absolument extraordinaire à ce démonisme, à ce luciférisme excessif, insoutenable. Et je voudrais que tu nous expliques par quelle démarche tu passes par cette filiation que tu avoues d'Don Quichotte de Cervantes à l'autre amant.
Je crois que le paradoxe n'est que d'apparence. Parce qu'en définitive, la démesure d'Isidore Ducasse comme de l'autre amant est peut-être à la mesure de sa folle générosité aussi. Je veux dire que ce qui m'a frappé chez lui, c'est cette espèce de rébellion extraordinaire qui l'amène à casser les modèles, à casser les modes, à s'en prendre à ce qu'il appelait les grandes têtes molles de la littérature pour affirmer de façon luciférienne, de façon démoniaque, de façon diabolique, qu'il faut refuser, il faut dire non, il faut casser quelque chose. Alors, ce qui m'a séduit dans cet homme, c'est à la fois cette générosité qui est sous-tendue par une forme de tendresse, peut-être, en définitive. Parce que ce démon, ce Belzébuth d'Isidore Ducasse, est peut-être en réalité quelqu'un qui était profondément blessé par le monde tel qu'il le voyait, tel qu'il se présentait à lui. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas par excès de tendresse et de générosité qu'il devenait démoniaque, diabolique, luciférien, Belzébuth, etc. Donc, il y a chez lui une forme de révolte qui n'est pas tellement différente de celle de Don Quichotte. La différence s'exprime dans la manière. La manière est abrupte. La manière est sans ménagement. Elle est sans complaisance. Elle est violente. Elle est outrancière. Mais c'est la même générosité, c'est-à-dire le refus du monde tel qu'il est. Il n'accepte pas ce monde fait d'injustice et d'hypocrisie, ce monde de fausses valeurs, et il dénonce ça dans des chants d'une dureté, d'une brutalité excessive, mais qui cache mal, à mon avis, cette espèce de tendresse sous-jacente. C'est en quoi il me semble être le lieu même d'une espèce d'ambiguïté, celle qui est l'ambiguïté caractéristique de l'art d'une manière générale. S'il est un espace ambigu, c'est celui de l'art. Or, précisément, l'autre amant est un personnage très ambigu, et tu as raison de le dire. C'est le même qui disait qu'il voulait que sa poésie puisse être lue par une jeune fille de 14 ans. Et c'est lui-même qui, dans les chants de Maldoror, proclame qu'il fait servir son génie à dénoncer, enfin, aux délices de la cruauté. Je fais servir mon génie à décrire les délices de la cruauté. C'est celui-là même aussi qui disait qu'il faut savoir arracher des beautés littéraires au sein même de la mort. Par conséquent, il s'agit très probablement d'un être profondément tourmenté, comme le sont les idéalistes, comme le sont les gens follement généreux, qui se sentaient très mal dans ce monde hypocrite et qui n'avaient de cesse que de dénoncer, etc., ce monde qui ne lui convenait pas. Mais, en même temps qu'il fonde aussi la littérature, parce qu'il met en page de façon déclamatoire et extraordinaire le monde qu'il dénonce, il montre aussi le côté, le néant de la littérature. C'est-à-dire que pour lui, la littérature peut à la fois créer le monde et défaire le monde. Il est en tout cas très conscient de la valeur de chambardement, de chamboulement. Et il passe son temps à mettre le lecteur, il passe son temps à mettre le lecteur, enfin, d'entrée de jeu, et tout au long des chants de Maldoror, il met en garde le lecteur. Il lui dit en gros, fais attention, ne va pas plus loin, ne lis pas ce livre, ne l'ouvre pas, parce que si Dieu ne veut pas que ton esprit soit complètement détruit par ce que tu vas lire, tu ferais mieux de ne pas ouvrir le livre. Il y a un passage qui peut être.